réseau Cogeco. Cogeco. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
Une énorme explosion est survenue il y a quelques heures à peine dans le port de Beyrouth et les autorités de la sécurité nationale laissent entendre qu'il s'agit d'un feu qui a pris dans un dépôt d'explosifs, du matériel explosif là-bas, qui avait été saisi sur un bateau il y a peut-être un mois auparavant. On va parler, si vous voulez bien, à un citoyen qui est toujours sous le choc. Alors, vous comprendrez l'état dans lequel ce monsieur-là est. Et également, on va parler à Fabrice de Pierrebourg. D'abord avec Fabrice de Pierrebourg, parce qu'on a des difficultés peut-être dues aux circonstances à établir les contacts avec ce citoyen qui a été témoin de cette explosion. Fabrice de Pierrebourg, bonjour.
Bonjour Jean-Luc.
Qu'est-ce qu'on sait de cette affaire qui vient de survenir au port de Beyrouth?
En vérité, c'est une double explosion, puis il y a beaucoup d'images, vidéos, entre autres, et photos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis tout à l'heure. C'est une double explosion qui est survenue, on dirait, en fin d'après-midi dans le port. Donc vraiment, aux limites de certains quartiers, entre autres un quartier qui a été complètement rénové à la suite des 15 années de guerre civile, hein, qui ont eu lieu, qui sont déroulées au Liban des années 75 à 90. Mmh. Et c'est une explosion puissante, hein, puisqu'on a vu le deuxième nuage de fumée était quasiment semblable à celui d'une explosion atomique, avec des fumées de couleur orange et rouge. Et effectivement, tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Mmh. Puis au Liban, tous les scénarios sont possibles, Jean-Luc.
Ben oui, et nous aussi, à distance, on se disait, bon, est-ce qu'on est encore devant un conflit? Est-ce qu'on est devant le terrorisme? Qu'est-ce que c'est?
Alors, effectivement, pour l'instant, ce qu'on a l'air de dire, c'est que l'explosion a eu lieu effectivement dans le port et dans un entrepôt, comme vous le disiez, qui contenait beaucoup de matériaux. Puis le chef de la sécurité libanaise a dit du matériel hautement explosif. On parle de munitions, on parle peut-être de nitrate de sodium, qui est un composant d'explosif. Mais chose certaine, les dégâts sont immenses, quoi. Puis moi, je connais bien Beyrouth parce que je suis allé plusieurs fois. La dernière fois, c'était en octobre et novembre pour le magazine d'actualité. Mmh. Et à des kilomètres à la ronde, on voit les mêmes scènes de vide soufflé, des gens qui sont hagards. Il y a beaucoup de journalistes qui ont posté des images ou de leur propre appartement où toutes les vitres ont sauté. Ou même, il y a une rédaction, je pense que c'est le Daily Star à Beyrouth, où tout est dévasté. Ça va même jusqu'à l'aéroport. Donc, c'est des kilomètres à la ronde. C'est une explosion surpuissante. Alors malheureusement,
Le souffle de l'explosion a touché un rayon de presque 10 kilomètres?
10 kilomètres. On dit qu'il y a des dégâts dans un rayon de 10 kilomètres et ça a été ressenti même au-delà de Beyrouth. Beyrouth, c'est vraiment au bord de la mer Méditerranée. Mais ouais. C'est collé au pied de montagne. Les gens dans les montagnes disent qu'ils ont ressenti le souffle. Mais d'ailleurs, les images sont très marquantes. Il y en a une, on voit l'explosion, la deuxième explosion qui est la plus puissante, près d'un silo à grains. Alors, on est dans le port, c'est sûr qu'il doit y avoir plein de choses stockées là-dedans. Hein. Il doit y avoir de l'essence, du gaz, tout ça a dû exploser en même temps.
Est-ce qu'on sait l'origine de ces produits explosifs? Parce que j'avais lu une certaine dépêche qui laissait entendre que ça avait été du matériel saisi sur un navire.
Oui, puis il y en a d'autres qui disent que c'est ce que les forces de sécurité ont saisi au cours des mois et des années passées. Donc, pour l'instant, ça reste assez flou. Mais tout est de savoir si c'est une explosion accidentelle 100% ou si elle a été provoquée. Là, faudra laisser l'enquête, mais chose certaine, ça va être difficile parce que c'est quasiment cataclysmique. Là, les qualificatifs sont nombreux. On voyait le gouverneur de Beyrouth tout à l'heure à la télévision qui était quasiment en pleurs parce que ce pays est en train de plonger, Jean-Luc, dans une espèce de spirale infernale. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais relevé finalement de ces années de guerre. Et là, la crise économique est terrible, quoi.
Fabrice, oui? Je vous demanderais de demeurer en attente et en ligne parce qu'on vient de rétablir la communication avec Beyrouth. Nous avons un citoyen, donc, qui a été témoin de cette explosion. Monsieur Chaoué Arbe. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes toujours sous le choc. Parlez-moi de ce dont vous avez été témoin.
Nous, on vit à Jatewe, dans un appartement, c'est dans la colline juste derrière le port de Beyrouth. Et ce qu'on a vu au début, c'était, on a entendu une petite explosion, mais on pensait que c'était un feu ou un truc comme ça. Mais après, on entendait des petites explosions qui se répétaient à chaque fois. Allô?
Oui. Oui, ouais. Je vous écoute.
Et d'un coup, on entend un son incroyable et on voit une grande... comme un mushroom.
Oui, un champignon de fumée.
Une explosion, une mort qui... Ouais, un champignon de fumée. Et tout notre appart était presque détruit par les fenêtres, les portes et tout était cassé.
Même chez vous, à votre à votre appartement, il y a des dommages?
Ouais, ouais. Nous, on n'est pas trop loin de, du port. On est à Ashrafieh, qui est à côté du port.
Vous et votre famille êtes en sécurité?
Ouais, ouais. On est bien. Il y a trop de gens qui étaient blessés, mais nous, on est bien.
Je ne prends pas plus de votre temps. Merci de votre disponibilité dans les circonstances, parce que vous êtes certainement encore sous le choc. Et de connaître ce bilan éventuel n'a rien pour vous encourager ou améliorer la situation. On vous souhaite le meilleur, monsieur. Merci de votre participation. Shaoui A. Merci, au revoir. Citoyen de Beyrouth qui a été témoin de l'explosion et qui a des dommages même chez lui. Écoute, Fabrice de Pierrebourg, on ne sait pas donc... qu'est-ce qui est la cause de ça? Parce que, évidemment, pendant que je vous ai, je veux parler aussi de terrorisme.
Oui.
Vous êtes un spécialiste du domaine. Pourquoi on n'entend plus parler, est-ce que c'est parce qu'ils sont inactifs, de l'État islamique?
Ben, en vérité, ça dépend où est-ce qu'ils sont actifs et inactifs. Effectivement, ils sont, on va dire, devenus inactifs en Occident depuis plusieurs mois. Et on va dire que la chute de leur califat, qui était leur territoire là, au printemps 2019, a fait en sorte qu'ils n'avaient plus, leur priorité, c'était plus vraiment ce qu'on appelle les opérations extérieures, c'est-à-dire des attentats d'envergure, comme on a pu voir en Europe, entre autres, dans les années 2015 et 2016. Mais n'en demeure pas moins que c'est un groupe qui est toujours très opportuniste, qui est très résilient, qui est très patient, Jean-Luc. Et en ce moment, ils sont dans une phase d'attentisme, mais mélangé harcèlement, des forces de sécurité et leur terrain de, si j'ose dire, de jeu vraiment prépondérant en ce moment, bah, c'est l'Afrique de l'Ouest et sahélienne. C'est évidemment l'Irak et la Syrie qui est leur berceau. Et puis le Sinaï et je dirais même jusqu'en Afghanistan, parce qu'on l'a vu hier, ils ont attaqué une prison, une attaque vraiment spectaculaire pour relâcher des prisonniers.
Est-ce que c'est une mission qu'ils ont réussi ou ils ont été bloqués par les autorités? Parce que j'allais justement vous parler de cette attaque massive contre une prison où il y avait peut-être 1700 sympathisants ou membres de l'État islamique que l'on voulait libérer.
Puis des talibans. Puis d'ailleurs, ce sont deux mouvements qui sont foncièrement, qui se haïssent foncièrement. C'est que les talibans essayent de négocier la paix avec le pouvoir central afghan, mais surtout les Américains, pour revenir au pouvoir, 19 ans après en avoir été chassé d'ailleurs. Et, mais l'État islamique a une branche qui est assez active en Afghanistan. Mais ils ont de la misère parce qu'ils sont à la fois confrontés donc par les forces afghanes et la coalition et par les talibans. Mais quand même, c'était une opération spectaculaire. Mais moi, ma crainte, c'est plutôt, puis je suis pas le seul à la partager, c'est qu'ils profitent en ce moment du chaos qui a toujours lieu d'ailleurs dans le nord Syrie et en Irak, pour commencer à se recomposer et peut-être recréer ce fameux territoire et ultérieurement relancer des attaques en Occident, des attaques organisées par eux, je parle, pas des attaques inspirées. Et ils avaient tout prévu parce que c'est maintenant clair qu'ils avaient anticipé la chute de leur territoire à la suite d'années de frappes de la coalition. Mmh. Ils avaient mis en place des réseaux, des cellules dormantes, ils avaient mis en place une logistique et ils ont aussi des réserves financières suffisantes pour assurer, on va dire, une pérennité pendant des années. Il ne faut jamais oublier que ce groupe-là, son ancêtre est né de l'intervention américaine en 2003. Uh-huh. Il a connu plusieurs revers et à chaque fois, il a réussi à revenir et à revenir toujours plus fort. C'est une idéologie qui est très, très puissante. Hein?
D'accord. Dites-moi, je vais revenir en terminant sur cette explosion qui vient de se produire. C'est un accident. On ne peut pas prêter ou il n'y a pas eu de revendication quelconque de quelque organisme que ce soit pour provoquer cette explosion-là.
Non, pour l'instant, mais on sait qu'évidemment, il y a des regards qui sont tournés vers Israël en disant, est-ce que par exemple, parce que toutes les rumeurs étaient évidemment courtes, on dit, c'est peut-être Israël qui a frappé un entrepôt du mouvement chiite libanais Hezbollah, qui est leur pire ennemi, et Israël a nié, quoi. Donc, c'est sûr que pour l'instant, il faudra attendre, mais on est au Liban, un pays vraiment agité, avec plusieurs intérêts, et où malheureusement, il y a un historique de drames, d'attentats et de conflits depuis des décennies, quoi.
Merci beaucoup, Fabrice de Pierrebourg, de ces informations, journaliste d'enquête et collaborateur ici au 98.5. Merci et à une prochaine, Fabrice.
Merci, Jean-Luc.
Merci, au revoir. On s'arrête pour une courte pause. On revient avec cette affaire de contamination de gens de qui sont venus visiter Airbus pour faire des achats, mais où ils ont contaminé des employés et le nombre augmente.